Le sujet de discussion que vous allez écouter est une rediffusion.
Sujet de discussion.
Présentation Aoussi Pota.
Voilà, soyez les bienvenus à notre espace sujet de discussion de ce jour. Nous parlerons aujourd'hui des manifestations et de la gestion de la violence chez les jeunes. Eh bien, pourquoi nous abordons ce sujet aujourd'hui? Selon des données de l'OMS datant d'octobre 2023, dans le monde, on estime que 176 000 homicides par an concernent les jeunes âgés de 15 à 29 ans, ce qui en fait la troisième cause de décès chez les personnes de cette tranche d'âge. Les taux d'homicide chez les jeunes varient considérablement d'un pays à l'autre et à l'intérieur d'un même pays. Entre 2000 et 2019, les taux d'homicide chez les jeunes ont diminué dans la plupart des pays. Toutefois, cette baisse a été plus importante dans les pays à revenus élevés que dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. La majorité des jeunes victimes d'homicide sont des hommes et la plupart des auteurs le sont aussi. La violence sexuelle touche également une proportion importante de jeunes. Par exemple, un jeune sur 8 affirme avoir été victime d'abus sexuels. Les altercations physiques et l'intimidation sont également courantes chez les jeunes. Une étude portant sur 40 pays en développement datant de 2023 a montré qu'en moyenne 42% des garçons et 37% des filles étaient exposées au harcèlement. Autant de données à mes auditrices et auditeurs qui nous amènent donc à parler des manifestations et de la gestion de la violence chez les jeunes. Et pour en parler, je reçois trois invités en studio avec moi. Je voudrais commencer par la dame. Il s'agit de Dr Porky Olga. Elle est psychiatre et vice-présidente de l'ONG Action Psy comme psychologue, psychiatrie, Côte d'Ivoire. Dr Porky Olga, bonjour.
Bonjour.
En quelques mots, nous présenter rapidement votre ONG Action Psy Côte d'Ivoire, s'il vous plaît.
Alors, l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire est une ONG qui existe depuis 5 ans et qui regroupe des spécialistes en santé mentale, c'est-à-dire psychiatres, psychologues et autres bénévoles. Et notre champ d'action à nous, c'est vraiment la prise en charge du traumatisme psychique.
Juste à vos côtés, nous avons Emmanuel Assé, il est psychologue. Monsieur Assé, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je suis psychologue à Psytrauteur. J'ai fait des études de clinique. Donc, Psytrauteur, c'est une organisation qui regroupe les psychologues, qui est plus axée sur la prise en charge holistique de la personne.
Vous travaillez beaucoup avec les jeunes aussi, hein?
Oui, beaucoup avec les jeunes, avec des sensibilisations dans les écoles.
Merci aussi d'avoir répondu présent à notre invitation de ce jour. Alors, on ne saurait parler de jeunes acteurs victimes de violences sans avoir avec nous un parent d'élèves, en l'occurrence M. Claude Kadio Aka, une voix assez régulière sur nos antennes. Il est le président de l'organisation des parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire, en abrégé OPC. Monsieur Claude Kadio Aka, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci aussi d'avoir répondu présent à notre invitation.
Merci beaucoup.
Alors, madame et messieurs, je voudrais juste que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, en introduction, j'ai donné quelques chiffres. Hein. C'est plutôt d'ordre mondial, en me basant sur des données communiquées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, datant de 2023. Et revenons dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Quelle image présentent les jeunes face à la violence? En d'autres termes, lorsqu'on parle de violence au niveau des jeunes, quels sont les éléments d'information dont on dispose en Côte d'Ivoire? Docteur Porky Olga.
Les éléments dont nous disposons ne sont pas très récents, malheureusement, ils datent de 2013. Une étude qui avait été faite de façon conjointe entre l'université Alassane Ouattara de Boaké et l'université Félix Houphouët Boigny. Une étude sur la violence, et on s'était rendu compte que la population la plus importante en termes de violence, c'était la population jeune. On avait même noté qu'il y avait des enfants de 10 ans déjà qui appartenaient à des gangs. Donc vraiment, la situation reste assez alarmante dans notre pays. Et cette étude-là concernait 3 villes, Abidjan, Duékoué et Boaké.
Ça fait 10 ans pratiquement, 11 ans, 10 ans en arrière.
Et on a eu le temps d'évoluer, malheureusement pas dans le bon sens depuis cette époque.
Est-ce que au niveau de M. Assé ou de Claude Kadio, on dispose d'éléments aussi plus récents ou en additif? On va commencer par M. Claude Kadio Aka.
Oui, la violence est partout, hein, en Côte d'Ivoire, dans nos écoles. Ce qui nous sert aujourd'hui, c'est les suicides. Les suicides. L'année dernière, nous avons eu un suicide à Sikensi, où un élève de 3e dans une école privée s'est suicidé, s'est égorgé littéralement lui-même. Ça, c'est une manifestation volontaire, réelle,
de la violence.
De la violence. Mmh. Et ça, ça m'a choqué. Je suis allé à Sikensi avec des psychologues. Nous avons fait un rapport que nous avons déposé auprès des différents ministres en charge de l'éducation. Mmh. Il y en a aussi qui se sont pendus et tout ça. Donc, ça, c'est véritable. La violence est partout. Les agressions, le congé anticipé, où on force les autres élèves, les élèves vont sortir des classes et tout ça. La violence est réelle dans notre pays et dans nos établissements.
Alors, avant que sûrement M. Emmanuel Hassène apporte quelques éléments aussi d'information et des additifs, je voudrais juste, pour les autres auditeurs, préciser que lorsque nous parlons donc de manifestation de la violence chez les jeunes et de la gestion de celle-ci, qu'est-ce qu'on peut faire face à celle-ci, nous voulons désigner la violence qui se produit entre des personnes âgées de 10 à 29 ans. Voilà, pour être précis par rapport à notre sujet de ce jour. Alors, M. Hassène, additif aussi?
Pour l'additif, je voulais, en complément à ce qu'ils ont dit, rappeler aussi que la violence aujourd'hui n'est plus forcément une violence physique directement, elle s'est aussi déplacée vers l'Internet à travers les réseaux sociaux, via le cyberharcèlement, via les intimidations et autres.
Docteur Porca, à votre niveau, en plus de ce que vient de dire donc M. Assé, quels sont les autres types de violences qui se manifestent, qu'on constate chez les jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire?
Dans la jeunesse en Côte d'Ivoire, on a tous les types de violences pratiquement, hein, peut-être excepté les violences économiques, mais on a tous les types de violences. Nous avons les violences physiques qui sont les plus reconnues, mais qui ne sont pas les plus graves. Nous avons également les violences psychologiques avec les menaces, les intimidations, notamment avec ce que M. Assi vient de dire à travers les réseaux sociaux. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez que les propos les plus virulents viennent des sujets jeunes. Le harcèlement, tout ça, ça vient des sujets jeunes. Nous avons également les violences sexuelles qui restent très présentes, notamment à travers le viol. Et il faut dire que 33% des violeurs ont eux-mêmes été victimes d'agressions sexuelles. Donc c'est vraiment le cycle de la violence qui se répète.
Donc on a des victimes qui deviennent acteurs de cette
absolument,
violence.
Absolument, absolument.
Alors vous avez parlé donc de violence physique, verbale, sexuelle, autre forme de violence chez les jeunes que l'on constate aussi aujourd'hui, Monsieur Claude Cadio.
Pratiquement, la violence se manifeste par des bagarres de rue, des bagarres rangées de rue. Tout dernièrement, on a vu l'université être bloquée parce que des étudiants ont fait des bagarres et ils se retrouvent aujourd'hui en prison. Ça, c'est réel. Ces gens de violence, là, nous les avons de façon permanente. Et c'est contre ces violences que, souvent, nous organisons des campagnes de sensibilisation.
Oui, allez, je voudrais juste rajouter que, en plus de ces comportements hétéro-agressifs, aujourd'hui, de plus en plus, nous observons des violences auto-agressives. Monsieur en a parlé tout à l'heure, il a parlé du suicide, mais avant même d'en arriver au suicide, nous avons les mutilations qui sont de plus en plus présentes dans nos populations jeunes.
Quand on parle de mutilation, c'est automutilation?
Oui, automutilation, le fait de se scarifier avec des objets contondants.
Dans le but de se donner la mort?
Non, pas forcément dans le but de se donner la mort, mais dans le but de se faire du mal, d'accord, ou de soulager une souffrance interne qui est tellement grande que seule une violence physique faite sur soi-même peut atténuer.
Atténuer quelque peu.
Voilà, donc c'est de plus en plus présent. Les zones sont assez discrètes, donc parfois les parents ne font pas attention. Ça peut être au niveau des avant-bras. Donc vous avez un jeune qui porte très souvent des vêtements à manches longues pour cacher ses automutilations. Ou bien les jeunes filles sur le haut des cuisses qui se tailladent avec des lames. Ou bien parfois certains médicaments comme les aérosols destinés à traiter l'asthme qu'on pompe sur soi-même en vue de s'infliger des brûlures.
Allez-y, Emmanuel Assé.
Elle m'a dit, moi, c'est un peu flair, revenir sur les intimidations. Dans le cas des jeunes, par exemple, les violences sont plus tournées vers des bagarres, vers aussi l'agression sexuelle aussi à l'école, puisque au niveau des jeunes, le domaine de la sexualité aussi est très, très présent. Donc, pour un jeune qui n'arrive pas vraiment à s'exprimer sur ce sujet-là, qui peut rencontrer des difficultés et tout, il risque aussi de passer à l'acte. Donc, il y a aussi ce volet-là. Je voulais juste passer aussi sur l'automutilation, qui est une agression tournée vers soi, pas forcément vers les autres. On peut mettre dedans le suicide aussi, en plus de la scarification. Le suicide ou sa tentative, c'est une forme encore plus grave de s'automutiler parce qu'on n'arrive pas vraiment à dépasser ce qu'on vit actuellement.
Alors, monsieur Claude Akadio, allez-y, oui.
En Côte d'Ivoire, il y a une manifestation de violence qui me paraît assez dangereuse.
Allez-y, laquelle?
L'utilisation de la machette, l'usage de la machette dans les rues. Ça, c'est grave. Se découper à la machette dans les rues par les jeunes. Et c'est fréquent. C'est fréquent. Et j'attire vraiment l'attention de la société pour que nous puissions nous attaquer véritablement à ça. Parce que là, il n'y a pas que nos enfants, mais il y a aussi des adultes qui utilisent ces moyens aussi. De la bagarre à la machette. Ça, c'est un fléau social qu'il faut combattre, absolument.
Quand même, ça fait quelques temps qu'on entend plutôt parler de machette. C'est vrai qu'on a eu ça à des moments donnés, mais on peut dire que ça a baissé quelque peu à ce niveau. Donc, bon, je vois M. Kadio qui me fait de grands signes. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, des faits récents à votre niveau, vous nous partagez alors.
Non, je sais bien qu'il y a longtemps, mais aujourd'hui, c'est exacerbé.
Bon, oubliez, voilà, vous n'avez pas oublié ça.
C'est exacerbé, il faut qu'on arrête ça. Tu détruis la machette.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste rappeler pour celles ou ceux qui viendraient donc de se connecter sur Radio de la Paix, que vous êtes à l'écoute de sujets de discussion. Nous parlons donc des manifestations de la violence chez les jeunes. Comment est-ce qu'on peut aussi gérer celle-ci en termes donc de solutions? Et mes invités sont nombre de trois. Docteur Porqué Olga, elle est psychiatre, vice-présidente de l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire. Monsieur Emmanuel Assé, psychologue, et Claude Kadio Aka, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire.
Sujet de discussion.
Présentation à Aoussi Pota.
Retour à mes trois invités en studio. Nous venons donc de parler un peu, n'est-ce pas, de faire l'état des lieux, mais aussi une sorte de typologie des violences observées chez les jeunes. Je voudrais maintenant que nous voyons ensemble quelles sont les causes de cette violence-là. On va peut-être commencer par le psychologue, avec la permission, mais la psy voulait commencer d'abord.
Oh, j'aurais bien voulu.
Bon, d'abord, docteur Porqué,
vous écoutez. Donc, alors, on va rester galant.
Voilà, les docteurs, voilà. Alors, quelles sont les causes?
Il y a plusieurs grandes causes. Déjà, il y a les causes qui sont liées à l'individu lui-même, à comment l'individu se perçoit lui-même et perçoit les autres. C'est-à-dire que même un compliment, quelque chose de bienveillant, peut être interprété par une personne comme quelque chose d'agressif. Et il faut dire que nous parlons des sujets jeunes. Le sujet jeune a besoin de s'affirmer, a besoin de montrer qu'il existe, de se révolter. Et ce besoin-là peut se traduire à travers le souci d'appartenance à une bande. Et très vite, le jeune peut se retrouver en compagnie de personnes marginales, imiter ces comportements-là en se disant que ce comportement-là va induire le respect de la part des autres.
C'est ce qu'on a besoin de s'affirmer.
Le besoin de s'affirmer au sein du groupe. Et on se rend compte que par l'utilisation de la violence, il y a une espèce de respect qui se crée autour de lui. Donc ceci va devenir son mode de fonctionnement habituel. Deuxième chose, au niveau biologique, il faut dire que le cerveau de l'adolescent n'est pas suffisamment développé pour pouvoir gérer la frustration. Ce qui fait que lorsqu'il y a une situation frustrante, un adolescent peut réagir de manière excessive, peut démarrer au quart de tour par la violence. Et enfin, au niveau du système, le système dans lequel l'individu évolue est très important.
Aujourd'hui,
l'environnement. Aujourd'hui, les familles sont dysfonctionnelles.
C'est-à-dire
que il y a beaucoup de couples séparés, il y a beaucoup de violence aussi au sein des couples, il y a beaucoup de parents qui sont démissionnaires, qui confie l'éducation de l'enfant exclusivement à l'école, si tant est que le jeune est scolarisé. Et à côté de ça également, il y a la pauvreté dans notre pays, malheureusement. Il y a le problème de logement qui se pose de plus en plus. Vous voyez aujourd'hui toutes ces cases, toutes ces maisons qui sont détruites. Ça fait de plus en plus de jeunes à la rue et ça va augmenter le nombre de violences, ça va augmenter l'insécurité. Et pour terminer, il faut également reparler des crises militaro-politiques que la Côte d'Ivoire a connues depuis les années 2000. Quand on calcule des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 24 ans. Donc il y a ces jeunes-là qui ne connaissent que cette violence-là, qui sont nés dans la violence. Leurs parents eux-mêmes ont vécu cette violence-là, n'ont pas pu être pris en charge et ont retransmis cette violence à leurs enfants. Donc c'est un cycle de violence qui est continue et qu'il est important de pouvoir briser.
Voilà, je m'apprête à vous poser la question, docteur Porquerga, lorsqu'on parle de cette crise datant de 2002, je m'apprête à vous demander, mais comment ça se fait que jusqu'à présent, ça peut être une des causes de ces violences?
Il n'y a pas eu seulement la crise de 2002, il y a eu d'autres crises depuis les années 99 jusqu'à aujourd'hui.
Les élections émaillées de violence et autres...
Le simple fait qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle d'élections, tout le monde a la peur au ventre, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que le cycle de la violence continue, il n'est pas encore brisé et il risque de se reproduire à nouveau.
Merci à vous, docteur Porquerga. Le psychologue Emmanuel Assé, on a entendu docteur Porquerga qui a énuméré donc certaines causes, certaines raisons de ces genres de violence chez les jeunes. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter aussi?
J'aimerais ajouter que, au niveau de la famille, par exemple, il y a des parents qui laissent vraiment l'éducation de leurs enfants aux écoles. Mais aussi, il y a le fait que le parent même n'est pas présent. La présence du parent joue un rôle important sur le devenir, sur le développement de l'enfant. Ce n'est pas que s'occuper de ses besoins physiologiques. L'enfant mange, il va à l'école, il est très bien. Mais aussi, il y a l'éducation derrière que le parent doit mettre en place pour soutenir l'enfant dans sa vie en société. Il y a des parents débonnaires qui vont juste j'ai fait mon enfant, ok, c'est bon. Ils ne s'occupent plus de tout ce qui va venir après et tout. Ils vont laisser ça soit à une servante ou à une cousine qui est venue là, rester là pour les études. La personne n'a pas la maturité, n'a pas ces valeurs que vous voulez inculquer à votre enfant pour devenir quelqu'un de meilleur demain. Et aussi, dans le contexte scolaire, l'influence des pères, la mode, les challenges et tout. Donc, l'enfant peut se servir de tout ça pour façonner son comportement pour que les autres puissent l'accepter, les autres puissent le respecter, lui, en tant qu'individu qui existe. Parce qu'en tant qu'adolescent, on veut exister. On se croit vraiment mûr. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Donc, pour exister, l'enfant va faire des actions qui ne sont pas forcément...
De bonnes actions, on va dire.
Forcément,
se faire remarquer, se faire voir.
Voilà, c'est ça.
Alors, M. Claude Kadiouaka,
oui.
Les deux intervenants, lorsqu'ils parlaient donc de causes, de raisons, sont revenus aussi sur la cellule familiale. Dislocation, manque d'autorité des parents, démission. Donc, quelque part, la famille aussi est mise en cause. Vous qui êtes président de l'association des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, vous confirmez, quel est votre regard sur ce point aussi?
J'irais même au-delà de la famille. Je parle de la société elle-même.
Mais vous voulez qu'on voit déjà la famille, vous qui êtes parents d'élèves aussi. Est-ce que parce que vous travaillez les parents d'élèves
au niveau de la famille, effectivement, les parents ont dit non, ils ont démissionné. Mais moi, je ne peux pas dire qu'ils ont démissionné. Les parents ont des contraintes qui font qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour s'occuper des enfants.
Est-ce que ça, c'est
ce n'est pas, ce n'est pas une raison valable pour abandonner son enfant.
Voilà,
parce qu'il y a des parents qui envoient les enfants à l'école. Et puis, bon, une fois que l'enfant est inscrit, ben, ce parent ne retourne plus à l'école jusqu'à ce que, bon, à la fin de l'année, il aille voir le résultat, bon, l'enfant est renvoyé, ou bien, bon, il doit doubler tout ça.
Voilà, par exemple, le temps que vous continuez, comme le disait tout à l'heure M. Assé, c'est vrai, tout le monde aujourd'hui a des impératifs, on va dire sociétal, des contraintes et autres, maman travaille, papa travaille, mais on n'abandonne pas pour autant l'enfant, par exemple, à la servante, à d'autres personnes.
Ce n'est pas normal.
Oui.
Parce que faire un enfant, c'est un projet de société. On ne peut pas faire un enfant comme ça et puis le laisser dans le vide.
Oui, donc l'autorité parentale va bien les laisser au sein de la famille à ce niveau.
Moi, j'ai un enfant, un bébé, l'enfant de l'une de mes filles que j'ai commencé à élever. Mais cet enfant, lorsque l'enfant ne voit pas sa maman, mais il est dans tous ses états. Oui, alors lorsqu'on abandonne l'enfant qui est grand et qui va à l'école, qui a besoin du parent, de l'affection parentale et tout, qui n'a pas, et tout ça va dépendre sur sa formation et sur son rendement.
D'accord.
Et tout ce qu'on voit sur ce que nous avons comme résultat de fin d'année. Il y a également faible contrôle émotionnel. Les enfants n'arrivent pas à se contrôler. Les jeunes ne peuvent pas se contrôler. Et ils ont envie de faire ce qu'ils veulent faire. Et souvent, ce qu'ils veulent faire n'est pas fondamentalement bon. Voilà, et donc, ils utilisent parfois la violence. Et la société elle-même génère la violence. Lorsque, je voudrais rejoindre Dr Porquet, qui parlait des casses. Aujourd'hui, nous avons plein de parents avec leurs enfants, dans les bras, partout. Et ça, c'est un danger public. Alors, donc, il faudrait qu'on y pense, qu'on y réfléchisse et qu'on trouve des solutions pour que tous ces parents puissent être logés décemment pour reprendre complètement leur vie parce que ces parents ont tout perdu. Alors, je demande bien comment ces parents vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces parents et ces nombreux enfants? Ce sont des questionnements que je me posais et c'est pour ça que j'ai sauté rapidement sur l'émission pour le dire publiquement pour que nous puissions trouver les solutions idoines afin que nos élèves puissent être tous à l'école parce que nous avons prôné l'école inclusive. Aucun enfant ne doit rester en dehors de l'école, en dehors des classes.
Merci M. Claude Kadouaka. On vous a laissé donc faire ce plaidoyer, mais on va revenir sur le sujet. Merci, c'était l'opportunité pour vous. Donc indiquez donc que nous parlons des manifestations et gestion de la violence chez les jeunes. Alors tout à l'heure, vous avez donc énuméré les différentes causes, raisons. Je voulais vous soumettre deux ou trois qui ne sont pas revenus dans vos éléments d'énumération. C'est vrai que ce n'est pas exhaustif, hein. Alors, l'on parle aussi de la consommation précoce d'alcool, de drogue et de tabac. Tout le monde réagit. On commence par Dr. Forqué, pardon.
Oui, aujourd'hui, les substances psychoactives, comme on les appelle, sont disponibles, sont à la portée de tous les jeunes.
C'est ça.
Donc, avec l'aide de la drogue ou bien de l'alcool, le jeune est désinhibé et il arrive à tout faire. Des choses qu'il ne se croyait pas permis. Dans ma pratique quotidienne, je me rends compte que la consommation de drogue commence à partir de la classe de 4e.
D'accord, là, c'est gentil, hein, parce que, bonne parenthèse, avant de continuer, bon, moi, en faisant une fois un reportage, je ne dirais pas le nom de l'établissement, mais à Coco d'ici, on me dit, je savais que le chef de gang était un élève de 6e.
Oui.
Bon, celui qui donc, était le dealer principal.
En moyenne, en classe de 4e, la consommation de drogue commence et c'est vraiment quelque chose qu'on peut acheter et à vil prix. Donc voilà. Et même dans les supermarchés, c'est bien marqué qu'il est interdit de vendre de l'alcool, aux mineurs, mais très souvent vous retrouvez des mineurs à qui on accepte de vendre ces substances.
Vous allez dans les supermarchés, docteur Porqué, mais déjà dans nos quartiers.
Dans nos quartiers, c'est ça, dans les bars.
Voilà, même celles qui vendent donc ces substances dans les petites bouteilles douteuses. Hein,
c'est ça. Hein,
on ne sait pas si c'est vraiment de bonne qualité. Merci déjà. Alors, oui, allez-y, Emmanuel Assé.
Concernant les substances psychoactives, actuellement, même en pharmacie, souvent, il y a des médicaments que les jeunes ont connaissance. Donc, ils vont en pharmacie, ils font des mélanges et tout. Ces mélanges-là, quand vous arrivez à en consommer une certaine quantité, vous n'êtes plus responsable, vous ne contrôlez plus ce que vous faites.
Donc, dans la boisson. Là.
Voilà. Donc, nécessairement, vous êtes en proie à des comportements déviants. Deuxièmement, concernant les substances aussi psychoactives, nous avons mené une action d'une école à Bobo. Comme vous l'avez dit, il y a un élève
de l'école, allez-y, partagez-nous quand même ce que vous avez fait.
Il y a un élève très jeune, en classe de 5e, qui nous a rapporté que même leur grand frère, adolescent aussi comme lui, mais peut-être 17, 18 ans, le forçait à prendre de la drogue. Vous voyez? Donc, il y a aussi cet aspect-là, que dès le plus jeune âge, ils sont soit soumis régulièrement à la prise de drogue ou forcés à prendre de la drogue. Ou comme la prise de la drogue est dans l'environnement, ils sont attirés vers ce comportement-là parce que j'ai un grand frère qui le fait, donc moi c'est bien. Donc je me lance dedans. Et quand je me lance dedans, ce qui va suivre, c'est il va agresser, moi aussi je vais agresser et tout. Je voulais aussi revenir sur les causes aussi qu'on a pas cité, selon les causes individuelles.
Allez-y.
Docteur Porqué a parlé de la maturation du cerveau de l'adolescent qui ne peut pas contrôler la frustration, mais aussi certaines pathologies déviantes du comportement. On va dire par exemple les troubles de la personnalité qui, lorsqu'elles sont installées ou lorsqu'elles se développent chez l'adolescent, il va commettre des actes, certains actes qui sont antisociales. Même pour lui, ce sont des actes qui sont normaux, qui lui plaisent, lui. Et donc, il ne prend pas la mesure de ce que ces actes-là vous fassent du mal.
C'est ça. Mais là, monsieur Emmanuel, là, c'est oui. Bon, je vous coupe un peu là. Oui. Mais là, c'est comme vous l'avez dit, dans un cas de pathologie. Hein, parce que le jeune, il est dépressif, il n'est plus en possession de tous ses sens. Je pense un peu ça, le schéma.
Non, pas forcément.
En fait, je vais rajouter rapidement, que parmi les causes que nous avons citées, il y a également certaines pathologies mentales.
D'accord.
L'individu ou le jeune a un comportement agressif, on le trouve agressif, on ne sait pas pourquoi, alors que parfois, il y a une maladie mentale qui est sous-jacente.
C'est ça, je ne voulais pas le faire. Il est dépressif, ou bien c'est pas ça.
Mais ça fait partie également des causes. D'accord. Donc, c'est important que qu'il puisse
le souligner. On va donc en venir aux solutions tout à l'heure. Mais je voulais, en revenant sur ce que M. Emmanuel Assad a dit tout à l'heure, plus haut, hein, parlant donc de ces substances que les jeunes vont souvent en officine hein, pour donc s'en approprier, là. Bon, rassuré aussi quand même, hein, j'ai eu donc l'occasion de faire une émission sur le sujet, mm-hmm. hein, avec professeur Sangaré mm-hmm. de l'UFR de sciences biologiques au niveau de l'université, qui nous donnait l'assurance que, en tout cas, les officines ont été instruites,
oui.
Hein,
ah, oui.
Voilà,
absolument.
De veiller maintenant à ne pas servir ces substances au-delà de certaines quantités aux jeunes.
Donc, au-delà voilà, de certaines quantités, mm-hmm. et je peux dire que les officines de Côte d'Ivoire sont de plus en plus regardantes concernant les ordonnances.
C'est ça.
Elles n'hésitent pas à appeler le prescripteur pour s'assurer que vraiment elles ont ou non le droit de servir ces produits.
Voilà, c'était bien à préciser.
Que c'est lui qui a prescrit, effectivement, oui. le médicament.
Voilà. Et ça doit rassurer les parents d'élèves, n'est-ce pas, M. Claude Kadiouaka?
Bien,
voilà.
sûr, ça bien, vous rassure. Bien sûr que ça nous rassure.
D'accord,
parce que,
allez-y.
Effectivement, le problème de santé mentale, c'est mm-hmm. important. Et nous avons un projet. Même projet que mm-hmm. nous allons développer avec les psychologues cette année à la rentrée.
Bon, voilà, d'accord.
Pour aider à sauver les enfants.
Vous avez l'occasion d'avoir donc Dr Fouquet. Et Emmanuel Assé avec vous. Voilà, je vous ai juste indiqué pour celles ou ceux qui viennent de se connecter que c'est l'espace de discussion. Nous parlons donc aujourd'hui des manifestations de la violence chez les jeunes et comment est-ce qu'on peut les gérer, les aider donc à y faire face et solutionner celles-ci. Mes invités sont nombre de trois. Dr Fouquet Olga, psychiatre et vice-présidente de l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire. Monsieur Claude Kadiouaka, président de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, et Emmanuel Assé, psychologue.
Sujet de discussion.
Présentation Aoussi Pota.
Retour à vous, chers invités. Dernier virage de notre temps d'antenne. Hein. Je voudrais maintenant que nous voyons ensemble. Bon, on va ouvrir la parenthèse sur ça aussi, parce que c'est important. Nous avons parlé donc des facteurs, des causes, mais l'impact même de cette violence a sur le jeune lui-même, mm-hmm. sur les jeunes eux-mêmes. C'est bien que nous en parlions avant d'en venir aux solutions, comment y faire face. Alors, quel est l'impact de ces violences a sur les jeunes eux-mêmes en termes de développement physique, psychique? Qui voudrait commencer? On va commencer par... bon, toujours la dame. Donc, on y va. Elle a demandé la galanterie, on va pas
oui,
donc...
on va rester galant.
Sur soi, ça. Docteur Porquet,
l'impact le plus grave qu'on pourrait observer, c'est déjà le décès. Toutes ces violences-là, in fine, peuvent conduire à la mort du jeune. Mmh. Et s'il n'y a pas de mort, il peut y avoir également des traumatismes, aussi bien physiques que psychiques.
À vie, bien des fois.
À vie, effectivement. Il peut y avoir des traumatismes, il peut y avoir même des handicaps en termes de séquelles. Mmh. Il peut y avoir le développement de certaines maladies mentales graves. Et il peut également avoir des conduites à risque. Qui peuvent, sur le long terme, entraîner des maladies chroniques. On parlait tout à l'heure de sexualité, en termes de conduite à risque, des rapports sexuels multiples non protégés qui peuvent aboutir à des maladies comme le VIH-SIDA, par exemple.
C'est ça. Chez et parlant sujet. De ce point, c'est dommage, je pense que les autorités sont au courant, et déjà que l'on a voté une loi pour réguler les publications sur les réseaux sociaux, c'est dommage de se rendre compte qu'aujourd'hui, en Abidjan, même en dehors d'Abidjan, on crée des groupes, surtout les jeunes filles, pour vendre le corps, pour vendre des vidéos érotiques. Et ça, c'est aussi une forme de violence. Ça devait pouvoir être interdit sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ça existe toujours. Bon, Facebook et autres, WhatsApp et autres.
Une nouvelle étude même a montré que parmi les cas récents de personnes infectées par le VIH-SIDA, 35% étaient vraiment une population très jeune.
Très
donc,
jeune.
C'est vraiment inquiétant ce qui se passe.
Bah, ils appellent ça, je pense, busy, un truc comme ça. Bon, ok, d'accord. Monsieur Claude Kadiouaka.
Il y a aussi la détérioration du comportement de l'enfant. L'enfant change carrément de comportement. Il devient dangereux, agressif, de façon permanente. Et de façon permanente aussi, il y a la dépression permanente de l'enfant. Donc cet enfant-là risque même de ne plus être récupérable.
Tant au niveau de la famille qu'au niveau de la société.
Tout à fait.
Et puis il va rester toujours une charge pour la famille.
Tout à fait.
Alors que peut-être il a 30 ans, 40 ans, 50 ans.
Voilà.
Bon, bref. En tout cas, merci pour ces points aussi. Monsieur Emmanuel Assé, à votre niveau, impact même sur les jeunes eux-mêmes.
Je vais plus parler de l'impact sur les victimes. Comme le docteur l'a dit, c'est les traumatismes. Il y a aussi le repli. Le repli sur soi pour la personne qui est victime de violence. Le jeune va se renfermer. Se mettre dans son coin. Le jeune aussi peut avoir un mode de pensée dans lequel il va se dire « Effectivement, c'est comme ça que je peux faire pour avoir de la puissance, pour qu'on puisse m'écouter. » Donc, il va développer des comportements qui vont dans ce sens-là et ça crée un cercle vicieux d'agresseurs entre jeunes. Il y a aussi
Bon, donnez l'idée, on va vous aider. Hein. Allez, donnez juste l'idée. D'accord, ça va revenir sur le bois. Mais c'est quoi l'idée que vous voulez
L'entrée dans des groupes de pères qui vont avoir une fonction de protection. Par exemple, on a parlé de Jéreuse de Bizy. La personne peut se dire, moi, pour qu'on puisse m'accepter, donc je vais dans ce groupe-là. Moi, pour qu'on puisse m'accepter, je vais dans un groupe qui, par exemple, va fumer, va
faire des trucs et tout. Et est-ce que là, ça ne traduit pas un manque de personnalité du jeune lui-même?
Je dirais oui, parce que un homme, lorsqu'il se développe, il va avoir des tendances. Donc, pour le jeune, par exemple, s'il est fragile, il sera tenté de rentrer, d'appartenir à ce groupe-là.
À des groupes, ouais.
Mais même si vous avez une force mentale, on va dire forte, si vous êtes persécuté pendant longtemps, vous risquez de chavirer. Il y a des jeunes qui font la dépression juste parce que il y a cette pression-là des autres.
Du groupe, quoi.
Du groupe.
On les accepte pas, on les rejette.
On les accepte pas, on les rejette. Donc, ça fait qu'ils dépriment. D'un point de vue de la psychologie, c'est quelque chose de très complexe. Mm-hmm. Pas forcément la dépression, mais il peut avoir aussi des comportements régressifs. C'est-à-dire, l'enfant va se dire, je ne peux pas.
Il crée un blocage, au fait.
Il crée le blocage. Je ne peux pas.
Alors qu'il peut.
Parce qu'il a été victime de violence.
Très bien.
Voilà. Quand vous parliez de personnalité, je vais vous dire que, en fait, le jeune, en fait, c'est un sujet en développement, en construction. Donc, sa personnalité n'est pas encore structurée, n'est pas encore assise. Généralement, quand on parle de troubles de la personnalité, il faut attendre autour de la vingtaine, entre 21 et 25 ans, pour parler de problèmes de personnalité. Sinon, l'individu jeune en lui-même, il cherche ses repères, il cherche qui il est, il cherche à qui s'identifier. Et si le référent principal qu'il a, c'est une personne qui est marginale, c'est une personne qui est agressive, il s'agira de reproduire par mimétisme le comportement qu'il observe au quotidien.
Ça, c'est un point intéressant, docteur Porquet, que vous abordez. Est-ce que là aussi, ça ne pose pas tout à l'heure plus haut, M. Claude Akadio Aka, en parlant, disant que c'est toute la société lorsqu'on parle de violence. Vous parlez donc de repères, de référents, de modèles proposés à ces jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on voit plus, c'est ceux qui... on va parler d'influenceurs,
Les références, ce sont ces influenceurs-là sur les réseaux sociaux qui ont des propos assez crus, très souvent, qui sont répétés malheureusement par notre jeunesse. Il y a quelques années, il y a des mots qu'on n'osait pas dire en face d'une personne plus âgée. Mais aujourd'hui, ces mots-là sont lâchés facilement pour ces monnaies courantes. Donc voilà, les jeunes sont en mal de repère. Ils s'identifient à des personnes qui ne sont pas toujours de bons modèles, qui ne sont pas des modèles qui véhiculent réellement des valeurs.
C'est ça. Parce qu'il y a la pensée de se dire, aujourd'hui, en faisant peu d'efforts, je vais gagner beaucoup.
Absolument.
Bon, malheureusement, on a eu la Côte d'Ivoire sur la liste noire. Hein, pour des... Non, on peut le dire, hein, voilà, ce n'est pas caché. Pour même recharger, payer des recharges, hein, pour certains types d'appareils, je ne ferai pas de publicité, mais on ne peut pas acheter ces recharges-là, parce que la Côte d'Ivoire est blacklistée à cause de l'époque donc, du phénomène des brouteurs, en l'occurrence.
Le programme que vous êtes en train de suivre est une rediffusion.
Voilà, juste indiquer que vous êtes dans le coup de Radio de la Paix, l'espace est sujet de discussion. Nous parlons donc des manifestations de la violence chez les jeunes et comment gérer ces manifestations et surtout comment y faire face. Mes invités sont au nombre de trois, Dr Porquet Olga, vice-président de l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire, elle-même psychiatre, Monsieur Claude Kadouaka, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, et Emmanuel Assé. Alors nous avons un auditeur en ligne, c'est cela? Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, monsieur, bonjour. C'est monsieur?
C'est monsieur Doumbia Abdoulaye.
Oui, vous nous appelez d'où?
Je vous appelle de Yopougon.
Ah oui, cher ami, oui, allez-y, nous écoutons votre contribution au sujet du jour.
Ma contribution sur le sujet du jour, c'est que je peux dire sur le sujet que la jeunesse d'aujourd'hui, si l'État il peut ouvrir une centre de formation de comment les enfants ils peuvent se comporter avec les grandes personnes. Je vois qu'en généralement... Donc, c'est le comprimé qu'il prend. Mm-hmm. Voilà, parce que les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont aucun respect, et c'est de grandes personnes aujourd'hui. C'est surtout nos petits frères qui sont dans les différents gares. Mais aujourd'hui, même à l'école, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont aucun respect parce que c'est le système après coup, à midi, et puis maintenant, puis le soir, ça dit, c'est le mot nussu. Ça dit, ils parlent des mots nussu. Ils n'ont aucun respect, quoi, en fait. Donc, j'aimerais que ce côté-là, il faut que. Les parents, ils doivent essayer de voir à leurs enfants pour l'éducation des enfants.
D'accord.
Voilà. Donc, à chaque parent, doit donner bonne éducation à son enfant. Comment on doit respecter les hommes âgés, mm-hmm. et les mamans qui sont âgées. Parce que quand c'est comme ça, là, c'est pas joli à voir.
D'accord.
Voici ma contribution qui est là.
Merci beaucoup, M. Toumbia, voilà. pour cette contribution. Nous allons y réagir tout à l'heure. Mais est-ce qu'au niveau de vous-même, Yopougon, vous remarquez des manifestations de violence que vous décriez, que vous voulez décrire rapidement? Nous vous écoutons.
Surtout même devant à la Cyprès, quand les passagers quittent en voyage, ils quittent à l'intérieur pour venir, dès qu'ils descendent à la gare, parce que les jeunes, ils ont des sales comportements pour accueillir les gens. C'est-à-dire quand un passager il descend son bagage, on dit non, il faut payer un droit de terre.
Un droit de terre?
Voilà, un droit de terre, parce que le car a garé et puis tu es descendu, dès que tu déposes ton bagage, on te dit automatiquement même qu'il faut payer droit de terre. C'est-à-dire, pour parler ça, c'est-à-dire que tu vois que le petit, c'est-à-dire, il manque respect à la grande personne.
C'est ça.
Parce qu'au niveau de la gare routière, il n'y a aucun respect.
C'est ça.
Dans le marché, dans le commerce. Et vous voyez que les enfants d'aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent dire à nos parents, c'est donner bonne éducation à leurs enfants. Voilà.
Merci beaucoup, M. Toumbia. Merci pour cette contribution et depuis Yopougon. En tout cas, restez à l'écoute et puis nous allons donc réagir sur vos propositions. Merci bien à vous, M. Toumbia.
Ok, merci beaucoup.
Voilà. Alors, c'est une contribution qui va nous permettre d'aborder le dernier virage de cette émission, hein, les solutions que nous proposons. Alors, M. Toumbia a suggéré que l'État puisse s'impliquer en ouvrant, par exemple, un centre, il n'a pas un centre de formation, mais il avait dit l'idée, c'est donc inculquer les bonnes manières aux jeunes. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est sa suggestion. Mais déjà, on peut noter que la Côte d'Ivoire, à travers le ministère donc, dédié à la jeunesse, a initié des programmes allant donc dans ce sens. Hein. Souvent, il y a donc... les vacances qui sont prévues pour une catégorie de jeunes un peu difficile, pour donc leur inculquer l'éducation civique et morale, donc ça c'est déjà appréciable. Additif à ce niveau, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Réaction aussi sur ce qu'il vient de dire, docteur Proker. On va commencer par vous, faire le tour de table.
Je suis
on
tout
aborde
à fait...
même temps les solutions.
Oui,
hein.
oui, on aborde les solutions. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que ce monsieur dit. Et le problème de droit de terre dont vous parlez, il date d'il y a longtemps, hein, pratiquement 10 ans dans les gares.
Ah, bon,
à chaque fois, la police essaie
nus,
de,
hein. bon,
de sévir, mais ça continue... Justement, à Yopougon, Cyprès, oui. Mmh. Donc, ce serait vraiment une prise en charge pluridisciplinaire de tous ces jeunes qui sont en difficulté, aussi bien au niveau de la famille, aussi bien au niveau de la communauté, aussi bien au niveau des enseignants que des autorités. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ces programmes qui existent pour aider les jeunes, mais sur combien de jeunes qui sont en difficulté? Sur combien de jeunes? Ce monsieur, il a parlé du cas des Nyambro dans les gares, mais il faut également parler de la situation des enfants en conflit avec la loi. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour eux?
Alors, est-ce qu'ils sont des éléments de réponse à cette question? Voilà pourquoi je vous dis pas de tout d'étape. Hein,
oui, mais ce serait justement de voir
vos
dans quelle mesure récupérer ces jeunes-là et les mettre dans des centres dédiés pour pouvoir les récupérer. Pour pouvoir les former, ceux qui peuvent retourner à l'école, qui retournent à l'école, ceux qui ne peuvent pas retourner à l'école, qui puissent au moins faire une formation et pouvoir rentrer dans des métiers plutôt que d'être à la rue comme ça.
D'accord.
Parce que ce sont des enfants, c'est vrai, ils nous font peur, mais ce sont des enfants qui sont également en souffrance. Ils ne font que reproduire le traumatisme qu'ils ont vécu eux-mêmes.
Là, on peut déjà dire que l'initiative prise par l'État de Côte d'Ivoire à travers donc, l'école de la seconde chance hein, n'est pas mauvaise, cette
tout
initiative,
fait,
parce qu'elle est ouverte à tous les jeunes. Et puis, donc, ils doivent rester à l'écoute, parce que de façon récurrente, voilà, l'annonce est faite, ils peuvent donc s'inscrire et puis bénéficier d'une formation.
C'est ça.
Qualifiant.
Voilà, maintenant, concernant les parents, je ne vais pas épiloguer, je vais laisser M. Kadjo en parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est différente, qui a évolué. Il est important, même fondamental, de transmettre les valeurs qui nous semblent importantes à nos enfants, mais il faut peut-être revoir le mode de transmission de ces valeurs.
D'accord.
Peut-être qu'à l'époque, c'était la chicotte qui marchait, les menaces qui marchaient, mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, les parents doivent commencer à réfléchir à un mode de communication peut-être plus souple pour pouvoir aboutir à ce qu'on appelle à une désescalade de la violence. Si un enfant est en colère et que vous vous mettez à crier encore plus que lui, c'est la violence qui ne fait que monter.
La violence répond à la violence.
La violence répond à la violence.
On n'a pas pourtant laissé la chicotte, des fois c'est nécessaire. Docteur Forquet.
Je ne pense pas que ce soit nécessaire dans tous les cas. Dans tous les cas. Il y a des cas vraiment, surtout quand l'enfant est en mesure de comprendre où c'est important de dialoguer, de communiquer avec l'enfant, plutôt que d'être de façon perpétuelle dans les menaces. Parce que, rappelons-nous, l'adolescent aime ce qui est interdit. Il a besoin de s'affirmer. Donc, tant que vous interdisez sans expliquer pourquoi, il va essayer. Tant que vous maintenez tout comme étant tabou, on ne parle pas de drogue à la maison, on ne parle pas de sexualité à la maison, on ne parle de rien sauf de l'école. Mais beaucoup de choses vont se passer derrière les parents sans qu'ils ne s'en rendent compte. Le parent doit être celui-là qui est le premier à parler de drogue à son enfant.
Le complice, le conseiller.
Le conseiller, oui, ça n'occupe en rien son rôle de parent.
Exact.
Le parent doit être celui-là qui doit être le premier à parler de sexualité à son enfant avant même l'école. Tout ça, c'est important.
Tout à fait.
Voilà.
Merci, docteur Porquet. On va donc se tourner vers M. Emmanuel Assé. Vos éléments de proposition, solution.
Pour contrer la violence des jeunes, il serait bien de faire des programmes d'aide à la gestion des émotions, gestion de la colère. Il serait aussi intéressant de promouvoir l'assertivité, l'affirmation de soi, le dépassement de soi, pour que les jeunes puissent avoir un autre moyen d'expression que la violence. Parce que c'est quand je n'ai pas la réponse à ce qui vient, c'est là que j'utilise la violence. Alors, quand je sais que pour pouvoir m'affirmer, je n'ai pas besoin de violence et que je peux parler ouvertement, alors la violence vient vraiment en dernier recours pour se défendre,
à user de violence.
Voilà. Les éducateurs aussi doivent s'impliquer dans tout ce qui est atelier de renforcement des capacités des élèves en milieu scolaire. Par exemple, on a parlé d'agression sexuelle. Alors le jeune garçon ou la jeune fille, on peut lui expliquer quand on dit agression sexuelle, c'est quoi? C'est à quel moment on parle d'agression sexuelle? Et quelles sont les ressources que moi j'ai en tant que jeune si je suis victime d'agression sexuelle pour pouvoir passer le cap? Tout ça, ce sont des ressources qui permettent aux jeunes de prévenir la violence et de faire face à la violence.
Merci beaucoup à vous aussi, Emmanuel Assé. Nous allons terminer avec Claude Okadio-Aka, je rappelle donc président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui tout à l'heure plus haut, lorsqu'il intervenait, avait pris un exemple hein, des étudiants arrêtés, mis en prison parce que, et des actes répréhensibles du point de vue de la loi, de l'État, et maintenant les autres se plaignent pour dire non, il faut qu'on les libère forcément. Ça, c'est une forme de violence.
Bon, alors, tout à fait.
Bon, j'ai voulu préciser ça parce que malheureusement, ça rentre aussi dans la violence en milieu universitaire.
Hein. Tout à fait.
Et voilà, Dieu se sait combien de fois cela est récurrent là-bas. Monsieur Kadio, vos propositions aussi.
Merci. Il faut quand même prendre le temps d'écouter les enfants attentivement et chercher à voir leurs préoccupations.
Les comprendre.
Les comprendre. Il faut avoir l'égard avec eux. Il faut avoir de l'empathie, il faut les aimer, il faut les mettre en confiance. Et dire, ah, c'est difficile, mais ça va aller. Les mettre en confiance. Il faut réduire le taux de chômage, parce que tous ces problèmes-là sont là. Parce que les gens, ils ne travaillent pas. Alors, ils se disent, mais moi, je vais à l'école et tout ça pour arriver à dormir à la maison. Mmh. Alors, ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut réduire le taux de chômage, faire en sorte que les enfants puissent être employés, puissent travailler.
Ils travailler ont besoin d'avoir un horizon moins sombre.
Voilà, moins
plus,
sombre.
Plus d'éclaircie,
voilà, parce qu'ils ont perdu tout espoir. Mmh. Alors, il faut faire revivre l'espoir chez les jeunes pour qu'ils sachent que tout n'est pas perdu, mais qu'avec un peu plus de courage, eh ben, on peut toujours arriver à quelque chose. Voilà.
Dernière proposition ou bien c'est bon?
Il y a beaucoup de propositions.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci, M. Claude Kadio-Aka. Merci aussi à.
Établir aussi la communication. Hein.
Oui.
Il faut communiquer avec du parent-enfant. Il faut établir la communication parent-enfant. Parce que si vous ne dialoguez pas avec l'enfant pour donner les conseils nécessaires à la maison, il va aller chercher les conseils dehors. Et les conseils qu'il reçoit dehors ne sont pas nécessairement les vrais conseils.
Très bien. Voilà. Alors, mais moi, je m'attendais, pour finir, je m'attendais à ce que la psychiatre, le psychologue fasse un plaidoyer parce qu'il y a aussi le besoin de structures spécialisées.
Oui, mais
non, mais on finit là. Voilà. Il faut en profiter là.
Donc, justement, il faut des prises en charge spécialisées.
C'est
comme
ça.
Nous le disions tantôt, cette prise en charge de ces jeunes-là est pluridisciplinaire. Et la prise en charge va commencer à travers déjà les communautés, à travers les travailleurs sociaux qui, comme le psychologue le disait tout à l'heure, doivent eux-mêmes se former, renforcer leurs capacités en compétences psychosociales qu'il a eu à citer tout à l'heure, afin de pouvoir à leur tour transmettre ces compétences-là aux enfants, c'est-à-dire l'estime de soi, la gestion de ses émotions et de son stress. Et maintenant, si ce travail là se retrouve dépassé, à ce moment-là, il peut toujours référer à un psychologue ou éventuellement à un psychiatre s'il s'agit par exemple d'un accompagnement plus spécialisé.
Très bien.
Donc c'est vraiment ça mon plaidoyer. Voilà.
Très bien, et nous allons terminer donc sur ce point, sur ce plaidoyer, docteur Porqué Olgan, psychiatre et vice-présidente de l'ONG Action Psycho d'Ivoire. Nous vous remercions de votre présence.
Merci.
Monsieur Emmanuel Assé, psychologue, et Claude Kadio Aka, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, en abrégé OPC. Voilà, merci à tous les trois. Merci d'avoir pris de votre temps pour être en notre compagnie donc ce jour, pour aborder dans l'espace de discussion le sujet suivant, les manifestations de la violence chez les jeunes, et aussi comment les gérer, comment y faire face. Merci à tous les trois. Nous espérons, quant à vous, à mes auditrices, auditeurs.
Merci.
Vous avez donc pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Bonne suite d'écoute de nos programmes sur Radio de la Paix.
Le sujet de discussion que vous venez d'écouter est une rediffusion.
C'était Sujet de discussion.
Présentation Aoussi Potter.